France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. en public, à l'occasion de la 43e Foire du Livre de Brive. Aujourd'hui, trois romans qui nous engagent vers une même quête, celle d'une vérité cachée, qu'elle soit absurde, dystopique ou profondément intime.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc., Lilia Hassen.
Nous recevrons d'abord Philibert Hume pour le roman le plus drôle de l'année. Ça s'appelle « Roman policier » et comme son nom l'indique, c'est une parodie de roman policier publié aux éditions des Équateurs. Tout part d'un fait divers parfaitement authentique, le vol. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. Le vol de la 21e lettre de l'alphabet, le U, dans le centre-ville de Pau. La lettre U a disparu de certaines enseignes. Qui a fait le coup? C'est ce que le narrateur et son acolyte cherchent à découvrir. Nous accueillerons également Laurent Godet, prix Goncourt 2004, auteur du fameux Chien 51 actuellement en salle et qui signe cette rentrée Zem chez Actes Sud, un roman noir, politique et métaphysique. Zem, c'est un peu la suite de Chien 51, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir lu l'un pour lire l'autre. L'intrigue démarre avec la découverte de 5 corps dans un container. Zem Sparak et l'inspectrice Salia Malberg reprennent du service. Ce sont deux êtres blessés, hantés, qui cherchent la vérité dans un monde où même la mort a perdu son sens. Et enfin, nous recevrons Julien Sandrel avec Le jour où Rose a disparu, publié chez HarperCollins. Le récit s'ouvre avec Rose Malherbe, une femme qui se réveille amnésique après une tentative de suicide. Sa seule piste, c'est une inscription, un prénom et un début de numéro de téléphone noté au stylo sur sa hanche gauche, la poussant à enquêter sur son propre passé. Parallèlement, on suit Aïda Niamé, auxiliaire de puériculture dans une maison des femmes à Toulon. Quel lien unit ces deux personnages? C'est un roman sur la reconstruction, la force de la solidarité féminine et le pouvoir de la mémoire. Trois livres d'imagination, trois enquêtes, donc intérieures, sociales ou futuristes, qui dissèquent chacune à leur manière les mots de notre époque. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Philibert Hume, Laurent Godet, Julien Sandrel, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Lilia.
Bienvenue également à notre libraire du jour, Élodie Martin de la librairie La Baignoire d'Archimède, et rebonjour au théâtre de Brive.
Oh, quelle ambiance.
C'est incroyable, hein, dès le matin comme ça. Philibert Hume, Laurent Godet, Julien Sandrel, vous avez des livres très différents, dans des genres différents, mais trois enquêtes tout de même. Que permet l'enquête en littérature, Laurent Godet?
Je pense qu'on
commence fort.
Ça y est, c'est parti. Alors, je pense que c'est un jeu avec le lecteur d'abord, et puis comment piéger les attentes du lecteur, comment postposer les informations, faire des ellipses pour le perdre un petit peu. Il y a toute cette structure-là qui s'impose. Et puis il y a autre chose, c'est que je crois que, quelle que soit la noirceur de l'univers, quand il y a des personnages qui enquêtent, il y a quand même un petit peu d'optimisme et d'utopie, parce que c'est des personnages qui, du coup, continuent à dire, au fond, que ça compte de connaître la vérité, ça compte d'avancer vers un peu de justice. Donc même si l'univers est noir, je crois que quand il y a enquête, il y a un peu d'espoir.
Philibert Hume.
Je crois que l'enquête donne envie au lecteur de tourner la page suivante. Moi, mes précédents romans étaient tout à fait dépourvus de scénario, d'intrigue, le degré zéro du spectaculaire. Et là, soudain, j'enquête et je m'aperçois que même moi, j'avais envie de connaître la suite.
Parce que vous la connaissiez pas?
Ben, je l'ai découverte. Je ne raconte que la vérité. Alors oui, je l'ai découverte au fil de l'histoire.
Vous écrivez pendant que vous enquêtez?
Je prends des notes, oui, comme un vrai détective.
J'ai des images de votre livre qui me reviennent, détective avec un acolyte dont on parlera. Julien Sandrel, alors vous, l'enquête, à quoi elle sert?
Ben moi, je pense que je suis d'accord avec Philibert. Je pense que l'enquête, ça sert à donner envie vraiment d'aller au bout de l'histoire et de tourner les pages avec avidité et peut-être d'aborder aussi un peu de biais certaines thématiques qui sont peut-être un peu trop dures si on les aborde frontalement. Moi, je parle dans mon roman de violences faites aux femmes et c'est vrai que la mécanique de l'enquête, ça permet aussi le temps de la réflexion personnelle et ça permet aussi de se dire, moi, comment est-ce que je me positionne par rapport à ce sujet-là.
Dans votre cas, Laurent Godet, je me faisais une réflexion. L'enquête permet aussi d'explorer différentes classes sociales.
Oui, alors dans mon livre, oui, parce que c'est un univers qui a été comme compartimenté en zones, zone 1, zone 2, zone 3, et c'est vrai que les enquêteurs ont cette possibilité d'une mobilité plus fluide, donc eux, ils se promènent. Et ça permet de déployer l'ensemble de l'univers, effectivement, et d'aller dans un coin et dans l'autre de la ville.
Je parlais de la question du genre, vous avez écrit dans des genres très différents. Comment définiriez-vous le genre de chacun de vos livres? Philibert Hume, si vous deviez classer votre livre dans une librairie.
Et comment le classeriez-vous, vous?
roman caustique, humoristique.
Oui, oui, sans doute. C'est un peu de tout ça.
Parodie de roman policier.
C'est vrai que j'aime bien me jouer des codes des différents genres romanesques, et le genre policier, il est particulièrement codifié. Enfin, je parle sous votre contrôle. Oui, on a tous des images mentales qui nous reviennent immédiatement à la seulement en entendant ces mots roman policier. Et voilà, ça commence par l'imperméable mastic, par la pluie oblique, par le bruit des pas sur le pavé. J'ai aimé me jouer.
La valise à Montparnasse.
Absolument. Ouais.
Et est-ce que c'est un genre que vous aimez lire?
Oui, assez. Alors c'est d'ailleurs un genre qui je suis pas spécialiste, mais qui commence avec Edgar Allan Poe vers le milieu du 19e siècle.
Il y a un petit jeu de mots Poe et Poe, parce qu'il y a la ville de Poe évidemment.
Dans le livre de Philibert Hume. C'est quand même pas ma faute si Poe a écrit la lettre volée.
Voilà.
Mais effectivement, il y a roman policier et puis il y a polar. Il n'y a pas grand rapport entre le mystère de la chambre jaune et les romans de Chandler.
J'ai pensé à Jean Echenoz, à Cherokee. Jean Echenoz qui a un prix, qui reçoit un prix d'ailleurs à Brive. Je ne sais pas si c'est une de vos références, mais c'est vrai que cette parodie de roman policier m'a fait penser aussi à Echenoz. Est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui vous ont inspiré?
Mais beaucoup, pas tellement dans le genre parodique, mais oui, ils sont nombreux et ils sont pas tous aussi anciens qu'on peut le penser. Il y a eu cette vague du néo-polar dans les années 70, où précisément les Français ont insufflé un peu d'humour dans le roman policier. Donc peut-être que je suis leur lointain successeur.
Et Laurent Godet, alors vous, le genre de votre livre, comment vous le classez?
Alors, c'est pas pour pas répondre à la question, mais c'est plutôt que... Non, je crois que cette question du genre, moi, elle m'a plutôt un peu embêtée.
Ouais, c'est pour ça que je vous pose la question, ouais. Parce que je sais à quel point les gens disent toujours on n'aime pas les dystopies, on n'aime pas la science-fiction, mais c'est pas du tout un livre de science-fiction, au fond.
Non, alors, je vais pas nier qu'il y a une...
Il y a une partie.
Il y a un côté polar et un côté anticipation dans le livre, c'est bien ça qui m'intéressait d'ailleurs, mais c'est vrai que, en fait, j'ai pas pris la chose en me disant je vais faire un exercice de style polar où je vais devenir un auteur de science-fiction, ce que je suis bien incapable de faire, d'ailleurs. C'était plutôt essayer de trouver quelques éléments dans ces genres-là, la question du suspense, la question de l'imagination, et de les ramener dans mes terres à moi pour travailler. J'aimerais bien qu'on puisse dire que Zem comme Chien 51 sont simplement un de mes livres. Voilà,
c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous pouvez effectivement travailler dans des genres très différents? Est-ce que vous voyez une cohérence entre tous les livres qui composent votre œuvre?
Si je passais mon temps à regarder mon travail dans le rétroviseur, je dirais oui, mais moi je suis plutôt frappé par la cohérence que par la diversité. Je sais qu'il y a une diversité géographique ou historique, mais moi oui, j'ai plutôt la sensation d'un même fleuve.
C'est quoi vos obsessions?
Il y a des motifs. Moi, je crois beaucoup à ça. On en parle beaucoup quand on parle de peintre. On parle de palette ou de motif. D'une toile à l'autre, il y a des alliances de couleurs qui reviennent, ou il y a des formes qui reviennent. Je pense que pour les écrivains, c'est pareil. On a des motifs. Moi, j'avais remarqué il y a quelque temps que souvent, dans mon travail, il y avait un personnage qui portait sur son dos un autre. C'était soit son père, soit sa mère, soit dans mes pièces de théâtre, ça revenait beaucoup. Donc voilà. Bah, au bout d'un moment,
faire une psychanalyse pour ça.
Mais oui, mais au bout d'un moment, ça a disparu. Donc j'ai dû régler le problème. Et puis il y a un autre motif qui arrive. Mais voilà, je crois beaucoup à ça. D'ailleurs, on ne le voit pas, on ne le décide pas, mais il y a des choses qui se... Bon, il y a une choralité, il y a la question de la tragédie qui m'accompagne depuis longtemps.
On en parlera, oui.
Voilà, donc...
Julien Sandrel, même question. Comment vous est venue l'idée aussi de l'amnésie traumatique, de commencer avec cette histoire? Parce que c'est une amnésie autobiographique qui frappe votre héroïne. Comment ça vous est venu?
Alors d'abord sur la question des genres, moi je trouve que le genre c'est quelque chose qui est assez pratique finalement pour les libraires ou parfois pour les journalistes, c'est pour catégoriser certains romans, mais ce qui est intéressant finalement c'est de les mélanger. Et moi ce qui est avec ce roman-là, Le jour où Rose a disparu, j'ai un certain nombre de lecteurs qui viennent me voir et qui me disent en fait ce que vous avez écrit c'est un thriller lumineux. Donc voilà une sous-catégorie que le lecteur crée pour essayer de ne pas enfermer totalement le livre dans un genre. Et je trouve que c'est assez juste parce que c'est un peu la démarche que j'ai eue, c'est-à-dire que oui, c'est un vrai thriller domestique, thriller intime d'une certaine façon. Et en même temps, je me suis résolument placé du côté de la reconstruction avec une partie de mon intrigue qui se passe vraiment dans une maison des femmes, qui est un lieu de reconstruction de femmes victimes de violences.
Et sur la question du point de départ, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé.
Et sur la question du point de départ, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler des violences faites aux femmes, parce que je pense que ça nous concerne tous. Les chiffres sont vertigineux. On parle de 300 000 femmes chaque année qui sont victimes, une femme sur 10 à l'échelle d'une vie. Et moi, j'ai une fille de 13 ans, et je peux pas me résoudre à ce qu'elle grandisse et ce qu'elle devienne adulte dans un monde qui continue quand même de détourner massivement le regard de cette question. Alors, les choses évoluent ces derniers temps, avec le mouvement MeToo notamment, une libération de la parole, mais ça avance tellement lentement. Et moi, je pense que les hommes doivent changer de posture sur ce sujet. sujet-là. Je pense qu'il est temps que les hommes disent « moi je vous vois, je vous crois et je me tiens surtout à vos côtés ». Parce que moi aussi, j'ai envie que la société change. Voilà. C'était ça le point de départ, c'était vraiment mon envie de traiter ce sujet.
Et Laurent Godet, vous, le point de départ de ZEM, comment elle vous est venue, cette idée, celle d'un homme qui ne peut plus mourir dans un monde où les multinationales ont pris le pouvoir ?
Alors, moi, c'est la première fois que je fais une suite, en fait. Donc, le point de départ, d'une certaine manière, c'est le livre d'avant, c'est Chien 51. Et c'est vrai que ça a été très étrange pour moi parce que d'habitude, je travaille jamais, les personnages ne préexistent pas. Moi, je trouve mes personnages, après avoir commencé le travail, c'est plutôt des thèmes ou des univers qui m'attirent en premier. Et au bout d'un certain temps, il y a des personnages qui apparaissent. Là, Zem Sparak et Salia Malberg, ils préexistaient à tout et c'est bien de ça dont il fallait partir. Ça a été un peu déroutant pour moi parce que, encore une fois, c'est pas comme ça que je travaille d'habitude, mais c'était bien aussi d'avoir ces deux personnages qui existent et il faut savoir ce qu'ils vont devenir 3 ans plus tard. Donc le point de départ, c'est eux, en fait, d'une certaine manière.
Et pour Chien 51 ?
Et pour Chien 51, c'était cette idée que la crise de la dette grecque était allée au bout du bout du bout du pire et qu'une grande société mondiale type GAFAM levait le doigt en disant « mais moi, il n'y a pas de problème, je peux racheter la Grèce ». Voilà. Et donc, c'était ça le point de départ.
C'était une histoire vraie, comme pour voilà. Philibert Hume. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, Philibert, est-ce que cette histoire de disparition a préexisté par rapport à votre envie de faire du polar? Ou est-ce que vous aviez envie de faire un roman policier et vous êtes tombé sur cet article qui parlait de ce fait divers?
Non, j'ai pas vraiment de plan de carrière, quoi. Enfin, je veux dire, j'envisage même pas le livre d'après, quoi. Je suis vraiment, je vis avec comme un myope, quoi. Horizon 2 semaines, 200 mètres. Moi, j'ai simplement un matin, j'ai lu dans le journal une dépêche faisant état de ces disparitions inquiétantes, et j'ai voulu immédiatement en savoir plus. Et c'est comme ça que j'ai convoqué des copains et qu'on est allé enquêter. Mais non, j'avais 10 minutes avant d'avoir l'idée, je n'avais pas l'idée.
C'est bien, vous écrivez « Les restaurants deviennent restaurants, les boulangeries, boulangeries, les boucheries, boucheries. On va fleurir des fleuristes, des boutiques de souvenirs et des pompes funèbres. »
Oui.
Quand j'ai écrit ça, mon Word a bugué. Tu m'as tout souligné.
Oui, c'est une histoire incroyable, non ? Je trouve que la réalité, on le dit pas assez, est un scénariste de génie. Elle a peut-être même tendance à en faire un peu trop.
Mais c'est vrai que si vous l'aviez inventé, on aurait trouvé ça loufoque.
Voilà, ouais, faut la canaliser. Et puis, je ne le dirai jamais assez, tout cela est authentique. Et si vous arrive de passer à Pau là, ces prochains jours, vous verrez, parce que la plupart des commerçants n'ont pas remplacé le U manquant.
C'est vrai que ça coûte cher, en fait.
Ça coûte quelques centaines d'euros, puis c'est pas fondamental, en fait. Oui. Ça ne met pas en péril le commerce. Effectivement, c'est assez drôle, mais c'est même presque devenu une curiosité touristique. Maintenant, il y aura bientôt un circuit touristique qui passera devant les magasins, devant les magasins volés.
J'avais lu une théorie sur Pau. C'est que Pau, on peut le lire pas de U.
Absolument. Il y a eu mille et une théories. C'était pourquoi il me semblait intéressant d'aller sur le terrain, de mener une enquête de terrain.
Ça fait rire Julien Sandré.
Parce que tout cela est très sérieux, il faut bien le comprendre.
On avait compris.
Et effectivement, en allant sur place, on a entendu mille et une rumeurs. Chaque palois a sa théorie, et on a écarté aucune piste, pas même la piste extraterrestre, et pas même voilà, on a pensé qu'un gang mafieux était peut-être impliqué, un collectionneur, un fétichiste de voyelles, ou simplement une bande d'étudiants avinés.
Et finalement, ce qui est génial, c'est que ça fait naître l'imagination chez plein d'habitants, chez toute une ville.
Ah bah oui, finalement, le meilleur moment, c'est dans l'escalier, et le pire moment dans le roman policier, c'est la résolution. Enfin, je veux dire, parce que ma résolution n'est peut-être pas à la hauteur des vôtres,
je vous confirme.
Merci, c'est agréable.
Tout le monde aura envie de savoir, maintenant.
mais effectivement, moi, j'ai adoré chercher, me planter, j'ai adoré le côté labyrinthique, quoi, du roman policier, qui s'écrivait pendant que je le vis.
Oui, c'est ce qui fait l'intérêt. Alors, dans un instant, on entrera plus en détail dans chacun de vos livres. Mais avant ça, on écoute M et Fatoumata Diawara, Bel Ami.
Mon bel ami, c'est ainsi. Mon bel ami, c'est ainsi. Mon bel ami, c'est ainsi. Ainsi va la vie. Je me relis à toi comme un livre qu'on relit. L'histoire de ta vie, je me relie à toi partout pour t'en partir. Toumani.
Je relis ton histoire loin d'être finie. À tes arpèges virtuoses sur tes cordes infinies. Qui se mêlent et s'en mêlent à ma mélancolie.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel, ainsi que de notre libraire, Élodie Martin, de la librairie La Baignoire d'Archimède à Brive. Avant la pause, on parlait de la disparition de la lettre U. Et Julien Sandrel nous a raconté en studio qu'il avait obtenu le prix U, c'est ça, le prix des libraires.
Tout à fait, donc le prix des lecteurs U.
Ah, le prix des lecteurs U.
Et en fait, donc j'ai lu le roman de Philibert, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et en fait, quand je suis arrivé à la page où il évoque le prix des lecteurs U en disant que quand même l'idéal pour lui serait d'avoir le prix des lecteurs U sur ce roman-là, j'avoue que j'ai bien rigolé parce qu'effectivement, je l'ai eu en 2019 pour La Chambre des Merveilles.
Vous pouvez le pistonner donc.
Exactement, on peut essayer.
Oui, oui.
Mais vous êtes en sélection pour le prix des lecteurs U?
Mais non, j'en rêve, mais pour l'instant, aucune nouvelle. Bon, curieusement.
J'espère que l'émission déclenchera une réaction. Élodie, alors on va parler du livre de Laurent Godet. Vous connaissez bien son travail, et je voulais savoir ce que vous aviez pensé de son dernier roman, Zem.
Eh bien, Laurent Godet, en fait, vous êtes un auteur que je lis quand même depuis quasiment 25 ans.
Ce qui fait que
chaque nouveau roman, en fait, pour moi, est un rendez-vous attendu. La mort du roi de Songor a particulièrement marqué mon parcours de lectrice, je ne vous le cache pas. Et même si chaque roman est attendu, je dois aussi vous avouer que je n'ai pas pu lire Chien 51 en sa parution. J'ai donc commencé dès que Zem est arrivé, je me suis ruée sur lui, je l'ai lu immédiatement. J'ai enchaîné avec Chien 51. Et là, j'ai commencé.
Ah, vous avez commencé par Zem.
Enchaîné avec Chien 51.
Oui, c'est
qui me fait rebondir sur ce que vous disiez d'ailleurs. Mmh. Effectivement, il y a bien évidemment une continuité, et c'est peut-être même gênant de vous le dire dans ce sens-là. Mais en fait, ça fonctionne parfaitement. On a découvert, pour ma part, je les ai découverts, et j'ai pris plaisir à voir ce qui véritablement avait fait rentrer ces personnages dans cet univers-là. J'ai été très étonnée en ouvrant Zem. Effectivement, je vous ai découvert dans cet univers qui est l'univers de la dystopie, absorbé très rapidement par l'obscurité des vies de Salia et Zem. J'ai été saisie par les décors, j'ai été abasourdie aussi par la résonance en fait de ce monde dystopique avec le nôtre. Je me suis laissée bien évidemment très rapidement embarquer par cette structure narrative que, dans laquelle vous intégrez des passages introspectifs qui nous permettent comme ça d'explorer les profondes blessures de l'âme de vos personnages, tout en me permettant de suivre comme ça une enquête haletante. Alors bien évidemment, la maîtrise en fait de ces genres aurait pu suffire et suffit à nous séduire, mais j'avoue également que c'est la dimension humaine qui pour moi donne toute sa force à votre roman. Votre regard lucide, compassionnel que vous portez sur cette condition humaine, pour moi parfait l'ensemble et a suscité mon enthousiasme.
Laurent Codet, vous avez envie de réagir ?
Bah merci beaucoup. Merci. On repart pour les 25 prochaines années.
Avec grand plaisir.
Ah, voilà. Et vous aviez une question à poser à Laurent Godet.
Oui, tout à fait. L'histoire, qu'elle soit antique ou contemporaine, nourrit vos écrits. Zem est une dystopie, mais le filtre fictionnel dont vous parez le monde est si mince qu'à la lecture, des images de l'actualité comme ça surgissent. Comment est-ce que vous parvenez encore aujourd'hui à ne pas reproduire un simple reflet de notre monde et à éviter que ne s'impose trop directement dans votre écriture justement cette réalité ?
Ben, je pense que le problème, c'est que la réalité va très vite, court plus vite que moi. Donc, effectivement, je parlais tout à l'heure de l'idée de départ de rachat d'un pays. Je ne pouvais pas imaginer, au moment où j'ai démarré Chien 51, que Trump allait un jour dire qu'il allait racheter le Groenland ou faire une Riviera à Gaza. Enfin, ces choses-là sont à l'œuvre dans notre monde dès maintenant, et ça va vite, en fait. Donc, je crois que le filtre en question, il s'agit effectivement de ne pas prendre la réalité en permanence parce qu'on peut pas, ça va trop vite. Moi, je suis un animal lent, j'écris lentement, ça me prend du temps. Mais par contre, filtrer avec l'imagination, je crois qu'un livre, d'une manière générale, ça n'est jamais un bout de réel, c'est le regard de quelqu'un sur du réel. Donc, il faut aussi que ça vibre avec ce qu'on est au moment où on se penche dessus, avec ce qui nous intéressait déjà hier et ce qui continue à nous animer. Il y a cette espèce de rencontre entre un sujet objectivement intéressant et l'homme ou la femme qu'on est au moment où on s'y met.
Merci beaucoup, Élodie. En fait, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, les dystopies ne se périment pas, au fond. C'est que vous avez une vision cyclique aussi de l'histoire. Il y a des éléments dans votre livre qui pourraient se produire demain, mais qui auraient pu se produire finalement il y a 200 ans.
Alors moi, plus ça va et plus je, ayant terminé ce travail là sur deux livres, je me dis que on peut définir la dystopie comme étant une espèce de monde qui a mal tourné, qui tournera mal dans l'avenir et le mettre donc devant nous. Mais en fait, je crois vraiment que il y a des choses dystopiques dans le monde d'aujourd'hui. Elles existent déjà, elles sont là, et c'est plutôt cette démarche là que j'ai eue, c'est-à-dire d'essayer de trouver ce qui d'ores et déjà aujourd'hui est dystopique. Ça ne veut pas dire que le monde de demain sera forcément invivable. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui déjà des germes de choses qui peuvent devenir assez effrayantes. Et puis peut-être qu'on va réussir à prendre l'autre chemin, le plan B. Mais c'est plus intéressant parce que je trouve que du coup, ça interroge directement notre aujourd'hui, en fait, plutôt que de se donner rendez-vous avec un espèce de débat théorique sur que sera demain. Il y a des tas de choses qui sont à l'œuvre en ce moment et qui sont parfaitement dystopiques.
C'est ce que vous répondez à ceux qui disent « je n'aime pas la dystopie ».
Ça dépend pourquoi ils disent ça. Si c'est par rapport au côté effrayant, je leur réponds que moi, ce que j'aime bien, c'est justement qu'au fond, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un fond d'espoir dans la dystopie. On n'écrit pas de dystopie si, au fond, on a l'impression que c'est perdu. Je pense que Orwell n'aurait pas écrit 1984 s'il était absolument sûr et certain que c'était plié. Il l'écrit pour faire réagir, il l'écrit pour tendre un miroir à son époque, il l'écrit pour... Donc ça, moi, ça me rend la dystopie aimable. C'est quand même un geste de conviction, ou en tout cas de combat, en disant on n'est pas obligé d'aller vers ça, attention.
Il y a beaucoup d'échos à la Grèce antique, dans votre roman, et notamment dans la dignité et l'humanité des personnages, Zem et Salia, que vous haussez vraiment à la hauteur de héros tragiques. C'est ce que vous vouliez ?
En fait, moi, la Grèce, je la mets à un endroit, alors c'est mon fantasme personnel, mais par rapport au monde dans lequel on vit et dans le monde dans lequel nous vivrons de plus en plus, le monde de la surprévision, le monde algorithmique, le monde où tout est envisagé, prévu, connecté, je trouve que avec tout ça, on a perdu une chose que j'appelle le mystère. Je trouve que ça fait bien longtemps déjà que les sociétés occidentales et européennes ont perdu le mystère. Qui dit mystère dit sacré, souvent. Et je trouve qu'on s'est énormément appauvri. Moi, c'est pour ça que j'ai été bouleversé lorsque j'ai été plusieurs fois à Port-au-Prince. Il y a des sociétés aujourd'hui qui savent encore faire avec le mystère, qui le cultivent, qui l'ont intégré. Nous, ça fait bien longtemps qu'on a tué le mystère. Je sais pas, ça nous fait peur. Et je trouve ça, en fait, d'un terrible appauvrissement, oui.
Alors, vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple?
Alors, je suis sur les réseaux sociaux parce que je suis un animal contradictoire. mais pour autant, c'est vrai que, ouais,
Comment on fait pour conserver du mystère aujourd'hui?
Ben, je pense qu'il faut, il y a une forme d'ouverture à ce qu'on ne comprend pas, qu'il faut cultiver. Et puis une ouverture, par exemple, à la rencontre. Et la rencontre, c'est pas, encore une fois, c'est imprévisible, c'est pas forcément confortable. Mais la vraie rencontre, c'est ça, c'est comme deux boules de billard et chacun change de trajectoire. Alors c'est pas facile, hein, mais il faut peut-être relire les surréalistes, tout simplement. Il faut relire Nadja. La rencontre, ça vous tombe dessus. Il faut savoir juste faire une place à ça.
On vient de parler de votre duo. Zem et Salia, Julien Sandrel, vous formez vous aussi un duo dans votre roman assez différent, deux femmes, Rose et Aïda, séparées par la vie et reliées par un mystère précisément. Elles ne se connaissent pas et pourtant l'une semble détenir la clé du salut de l'autre. Comment vous est venue cette construction en miroir ?
C'est venu assez rapidement parce que j'avais tout de suite l'idée de deux personnages qui évolueraient dans deux univers complètement différents, une qui soit, on le disait tout à l'heure, du côté de la reconstruction, donc Aïda, qui évolue en tant qu'auxiliaire de puériculture dans une maison des femmes, donc qui, elle, est elle-même dans une phase de reconstruction personnelle, mais qui surtout aide les autres à se reconstruire, et de l'autre, Rose, qui redémarre complètement d'une page blanche, et qui, elle, finalement, va vivre une construction personnelle en parallèle de celle de l'autre, mais surtout, Rose, on va le découvrir quand même assez rapidement, elle va vivre finalement le parcours un peu classique d'une victime de violence, et tout ça va se rejoindre, alors non pas de manière assez simple avec l'une qui va rencontrer l'autre, ça n'est pas du tout ça, et c'est bien ça l'intérêt du mystère.
Mais il ne faut pas le dire.
Voilà, il y a ce qu'on appelle un plot twist dans mon roman, c'est aussi ce que me disent les lecteurs, vous voyez. Et donc en fait, dans ce qui est venu en premier, c'est vraiment la caractérisation de chacune de ces héroïnes.
Je me tourne vers vous, Philibert Hume, votre duo d'enquêteurs. Pourquoi il faut toujours des binômes pour résoudre les enquêtes? Est-ce qu'il faut forcément un regard à deux pour comprendre le monde?
Et je m'aperçois que je n'aime pas voyager seul et que, comme personne ne me croit, au moins ça c'est un des avantages de partir en groupe.
Ah, c'est d'accord. C'est pour avoir un témoin.
Absolument. Certains peuvent attester les faits. C'est peut-être est-ce aussi plus facile d'écrire avec plusieurs personnages qui se répondent. Peut-être que ce sont simplement mes faire-valoir.
Puisqu'on parle du binôme, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre roman, Philibert Hume. Un extrait qui m'a fait bien rire, parce que c'est le moment où vous présentez votre célèbre acolyte, celui qui vous suit dans votre enquête sur la disparition des U.
Vous n'êtes pas sans savoir, et si vous êtes sans le savoir, renseignez-vous, que je n'aime pas voyager seul. Par chance, je dispose d'un important vivier d'amis qui n'en foutent pas une rame et ne demandent rien tant que m'accompagner où je vais. Vincent s'était porté volontaire pour m'épauler dans cette enquête, qui l'intéressait aussi, sans qu'elle le concernât non plus. Ni lui ni moi n'avions jamais mis les pieds à Pau, mais qui de rien ne se mêle, rien jamais ne démêle. Et s'il fallait ne s'occuper que de ses oignons, la littérature française serait ce qu'elle est, nombriliste. Cela me donne l'occasion de vous présenter Vincent, et j'en suis bien content. C'est un garçon d'un raffinement extrême et d'une hygiène irréprochable. Physiquement, il ressemble assez au comédien Vincent de Dienne, pour la bonne raison que c'est lui. Je l'ai rencontré il y a 3 ou 4 ans dans ma rue, qui est la sienne également. Les plus perspicaces en déduiront que nous sommes voisins, et ils auront raison. Rien d'étonnant à cela. Il est connu que les vedettes habitent généralement les mêmes quartiers, car nous n'aimons pas trop nous mélanger. Ce n'est pas toujours vrai, du reste. Il m'arrive à l'occasion d'échanger avec de parfaits inconnus, et en dépit de leur anonymat, je continue d'entretenir les meilleurs rapports avec mes parents, ce qui est rare dans le paysage éditorial français.
Philibert Hume, est-ce que le livre se vend bien à Pau ?
Ben... non mais blague à part, les Palois, en tout cas les journaux palois traitent l'affaire différemment. Ils la traitent comme une affaire, quoi, comme un vrai fait divers. Il y a une grande contre-enquête.
Est-ce que vous avez été invité pour votre livre ?
Mais je suis invité, oui, le 6 décembre, le 4 décembre, pardon.
Ah oui, vous êtes une star locale.
Absolument.
Faire rire en littérature, c'est très difficile, Philibert Hume. Et pourtant, vous y parvenez. Comment on fait pour doser, pour ne pas être lourd ?
Bah, c'est très difficile, et d'ailleurs, j'y arrive pas, pas toujours. C'est pas toujours couronné de succès, mais c'est difficile parce que.
Mais votre éditeur vous le dit, par exemple. Là, ça va trop loin.
J'écris comme les enfants, vous savez, qui veulent pas qu'on leur copie dessus. Je ne donne rien à l'éditeur avant que ce soit à peu près fini. Mais c'est terrible parce qu'avant de rendre le manuscrit, on lit, on se relit, et on se trouve de moins en moins drôle. Et là, on pouffait à la relecture, on est complètement consterné à la quatrième relecture. Donc c'est assez difficile. Pour l'ego notamment.
Laurent Godet, vous pourriez écrire un roman comique ?
Moi j'adorerais, j'avais essayé quand j'étais un peu plus jeune sur du théâtre d'essayer des... et puis c'était navrant.
C'est très dur, hein ?
C'est super dur. Non, c'est très difficile et je suis très admiratif de celles et ceux qui y parviennent parce que c'est vrai que ce que disait Philibert est très vrai, plus on travaille son manuscrit et moins on trouve ça drôle. Donc,
mais on trouve ça bien tout court. Hein.
Oui, d'une manière générale. Donc au bout d'un moment, il y a quelque chose qui devient de plus en plus laborieux en fait. Ouais.
Il y a quelques touches d'humour dans votre livre, Julien Sandrel. C'est quelque chose qui compte pour vous ?
Oui, alors en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai souvent des éléments de comédie dans mes romans, quels que soient les sujets. Et sur un sujet comme celui-ci, je trouvais que c'était particulièrement nécessaire.
Cette amnésie autobiographique, de toute façon, elle plonge votre héroïne Rose dans... elle devient presque un enfant. En
réalité. Oui, dans quelque chose qui est difficile. Et par ailleurs, pour construire le roman, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans des maisons des femmes. Et j'ai rencontré des dizaines de personnes, des bénévoles, des soignants, des victimes aussi. Et j'ai constaté que justement, ces éléments de respiration, par exemple, il y a une scène de Secret Santa dans mon roman. Et c'est exactement ce qui existe dans les services hospitaliers. C'est
toujours une bonne idée, les Secret Santa.
Tout à fait. Ça dépend ce qu'on reçoit comme cadeau. Mais c'est exactement ce genre de parenthèse qui existe dans des services qui traitent de soins palliatifs, par exemple, ou là, en l'occurrence, de personnels qui sont au contact de femmes violentées toute la journée. Il y a besoin de ces parenthèses de respiration et les éléments de comédie permettent aussi au lecteur d'avoir un peu de respiration quand on vient d'avoir une scène un peu difficile.
Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel, on revient dans un instant. On parlera justement de vos manières à chacun de travailler.
C'est la fin, le tout dernier matin. Le tout dernier jasmin ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Juliette Armanet, le dernier jour du disco. Et nous sommes toujours en compagnie des romanciers Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel en public depuis le théâtre de Brive. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassem.
Et on retrouve notre libraire du jour, Élodie Martin, de la librairie La Baignoire d'Archimède à Brive. Élodie, vous connaissez bien le travail de Philibert Hume et vous aviez une question à lui poser.
Oui, Philibert, aujourd'hui, pas de blague, pas de baignoire pour vous, mais une question. L'écriture est une activité solitaire. Or, chacun de vos livres est le fruit d'une aventure amicale, collective. De fait, je me demandais si l'écriture commençait pendant cette aventure avec vos comparses ou si elle commençait lors d'intermèdes dans les journées ou de retour vraiment de ces aventures dans votre bureau.
Je crois qu'elle commence même avant. Là, par exemple, pour cette enquête, j'ai rêvé de son déroulement avant même de la mener. Donc, pourquoi mes romans semblent souvent invraisemblables, c'est que j'essaye de faire rentrer mes fantasmes dans la réalité. Et parfois, mes fantasmes chaussent du 43 et la réalité du 39. Et j'y vais aux chausse-pieds comme ça. Mais je crois que j'essaye de calquer mes rêves sur la réalité et de les faire rentrer. Je suis le seul à me percevoir que ça ne coïncide pas toujours bien.
Et justement, quelle est la part de fiction dans le livre?
Mais elle est infime. Réellement, je me tue à le répéter, mais personne ne me croit. Je dois avoir une bobine de menteur.
Si, je vous crois, mais je vous pose la question. Bien sûr.
Les gens commencent par ne pas croire que je m'appelle véritablement Philibert Hume. Donc, ça va loin, cette affaire-là.
Je me suis posé la question, c'est pas vrai.
J'ai eu un doute aussi, j'avoue. Oui.
C'est le moment de sortir mes papiers. Mais elle est...
Je me suis demandé pourquoi vous avez conservé le U sur la couverture de votre nom de famille.
Si vous voulez la véritable histoire, on avait prévu, habile comme vous, de le supprimer. Et l'imprimeur, au dernier moment, vraiment, avant d'envoyer les copies, a cru à une coquille. Et
c'est vrai, c'est une belle histoire.
Non, c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier, croisez vos sources, faites votre travail de journaliste.
On va inviter l'imprimeur la prochaine fois. Et est-ce que vous avez vraiment retrouvé... le voleur ou la voleuse?
Absolument, je l'ai retrouvé. Alors vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, là encore, mais je l'ai retrouvé et j'ai eu ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le 12 avril 2025, donc vous voyez, c'est assez récent.
Vous mentez tellement bien, vous donnez les dates.
Je me suis retrouvé avec un carton de U devant les pieds. Il y a une trentaine de U que je reconnaissais tous, le U de la boucherie, le U du restaurant, parce qu'ils ont tous une forme et une couleur bien spécifique. Et depuis, ces U-là ont été déplacés, d'après mes informations, ils seraient dans un box en périphérie de... Mais je veux pas en dire trop, non.
La prochaine enquête sera donc sur le Louvre, sur les bijoux. Voilà.
Ouais. Oui, je vais m'y coller. Hein. Là, je me repose un peu, mais...
Et bientôt. Est-ce que vous avez une lettre préférée, Julien Sandrel? Alors, c'est vraiment la question inattendue.
Un peu complexe. Je ne sais pas, non, pas vraiment. J'ai le E, sinon.
Le E, pourquoi, vous ne savez pas?
Parce que c'est la lettre la plus courante, j'ai l'impression, de la langue.
C'est comme dans La Disparition de Georges Perec, vous ne pourriez pas l'enlever. Élodie Martin parlait du bureau, elle vous posait la question de si vous rentriez le soir pour écrire, etc. Est-ce que vous avez un bureau, d'ailleurs, tous les trois? Laurent Godet, est-ce que vous écrivez dans un bureau?
Alors, j'ai un bureau et ça fait 25 ans que j'écris sur la table de la salle à manger, en fait.
Ah oui, bah, c'est classique. Ouais. Philibert Hume.
Non, mais mes droits d'auteur ne me le permettent pas. mais j'ai une table en bois dont je suis très fier, une table de ferme qui me sert de table pour manger, pour travailler, pour même de table à faire repasser.
Et puis, comme vous enquêtez, vous écrivez partout, non?
Mais oui, absolument, sur mes genoux. Mais oui, j'aimerais beaucoup avoir un bureau.
Julien Sandrel, est-ce que vous avez un bureau? Est-ce que vos droits d'auteur vous permettent de...
Non, mais j'aimerais beaucoup avoir un bureau aussi. Et non, mais en fait, je travaille un peu partout, mais surtout, effectivement, sur la table du salon.
C'est vrai, c'est un grand classique. Je me demandais, est-ce que vous faites beaucoup de recherches avant de commencer un livre, Julien Sandrel, ou est-ce que vous les faites au fur et à mesure?
Alors ça dépend des livres, mais pour celui-ci, j'avais vraiment besoin de connaître parfaitement la problématique et de faire les recherches avant, et notamment les recherches sont passées par beaucoup de rencontres. Donc j'ai fait évidemment des recherches sur les violences faites aux femmes.
Donc vous enquêtez
mais
vraiment.
J'ai surtout rencontré énormément de personnes. Oui, oui. Bah, c'était en fait sur ce sujet-là en particulier, j'avais vraiment à cœur d'être très juste. Évidemment, c'est une fiction, donc aucune des personnes que j'ai rencontrées n'est véritablement Rose ou Aïda, mais je voulais vraiment que les mots même qui étaient utilisés, par exemple, il y a une scène où il y a un médecin qui accueille une femme qui est victime, les mots utilisés par ce médecin, je voulais qu'ils correspondent aux mots que le médecin utilise dans la réalité. Et donc ça, évidemment, j'avais besoin de rencontrer un certain nombre de personnes pour pouvoir construire ça.
Et vous, Laurent Godet, vous faites beaucoup de recherches en amont ?
Alors, je fais des recherches au sens où j'ai souvent besoin de plonger dans la réalité que je vais essayer d'intégrer au roman. Après, c'est jamais avec un souci d'exhaustivité, c'est jamais pour devenir un spécialiste de la question, c'est plus avec l'idée que, voilà, il faut se mettre dans un état un peu flottant pour prendre ce qui va vous inspirer, en fait. Donc, je revendique assez le côté tout à fait partiel de ma documentation et juste essayer de trouver des choses. En fait, je suis plutôt un pilleur. Je prends des petites pépites, je laisse de côté des tas de choses passionnantes mais qui moi ne me font pas vibrer, et c'est plus un rapport comme ça avec son propre matériau et son propre désir en fait.
Et comment vous écrivez ? Est-ce que vous faites un plan par exemple ?
Oui, moi je suis un angoissé, donc j'ai besoin de faire un plan, oui, absolument.
Mais vous en sortez ou c'est
ça ? Ah bah oui, parce que sinon ça serait un peu ennuyeux, ouais. Ouais. C'est ça qui est beau, c'est qu'à la fois on prévoit tout, donc moi j'ai besoin de faire un plan qui est assez détaillé avec ce que vont devenir les personnages, et puis en même temps, une fois
que ça vous prend beaucoup de temps, la planification ?
Oui, 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 ça prend un certain temps, mais c'est une période que j'aime bien, moi, parce que le livre est génial à ce moment-là. Mmh. Il n'est pas encore écrit, donc il est super.
Ça livre en puissance.
Il va faciliter.
Oui, tout le monde a cru que vous parliez de votre livre.
Non, je suis pas comme ça. Non, même le matin, je suis pas comme ça. Donc oui, non, à ce moment-là, le livre il est parfait, donc c'est merveilleux. Il n'est pas encore confronté à nos impuissances. Mais oui, j'ai besoin de travailler. Après, ce qui est merveilleux, c'est qu'effectivement, quand on se met à l'écriture du premier jet, les choses ne se passent pas comme prévu. Le plan est démenti. Ce qu'on pensait être une grande scène magistrale et centrale s'est décalé et étorché en trois lignes. Elle n'est pas si bien. Donc du coup, ça déséquilibre un peu l'ensemble. Donc ouais, tout ça fait partie de la vie d'un manuscrit.
Philibert Hume, je vous pose pas la question.
D'accord.
Non, je plaisante.
Un traitement de faveur, certains. On n'est pas tous logés à la même enseigne.
Non, mais vous faites un plan.
Pardon ?
Vous faites un plan ou
Question suivante.
Il sait même pas ce que c'est, visiblement.
Non, mais comme tout est inventé, je pose la question, parce qu'il faut être très, très organisé.
Non, pas de plan. J'y vais vraiment comme ça, à la diable. Et un peu à la manière d'un sculpteur, ça paraît très prétentieux. Mais enfin, j'écris le livre d'un coup, et puis après, je passe des semaines, des mois à dégrossir, quoi.
Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel, on se retrouve dans un instant, mais d'abord on écoute Vanessa Paradis, Le retour des beaux jours.
J'attends tout.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Etc. en public depuis le théâtre de Brive. Nous sommes toujours en compagnie des romanciers Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Lilia Hassen, au livre, etc.
Et on retrouve notre libraire, Élodie Martin. Élodie, vous avez lu cette semaine le dernier livre de Julien Sandrel, Le jour où Rose a disparu.
Alors, Julien Sandrel, j'ai bien cerné que vous êtes, pour moi en tout cas, un auteur connecté à vos lecteurs. J'ai le sentiment que vous écrivez pour eux, pour elles, dans une démarche de partage empreinte de bienveillance. Si vous êtes habituellement classé dans la catégorie feel good, ce dernier roman est davantage un thriller psychologique, tout en développant des personnages très humains et en conservant la fibre empathique qui caractérise vos histoires, vous créez une véritable intrigue variant les rythmes entre les pics de tension dramatique et les immersions dans les vies de vos personnages. Les pièces du puzzle s'assemblent petit à petit et délivrent la vérité du drame qui maintenait une ombre et le lien mystérieux entre Rose, Aïda et l'auteur de cette lettre fragmentée que l'on suit au fil du roman.
Et vous avez une question pour Julien Sandrel.
Et effectivement, j'ai une question à laquelle vous avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure peut-être, mais je cerne bien que les femmes occupent une place centrale dans vos romans. La Chambre des Merveilles, Les Étincelles, on le décelait déjà, vos héroïnes souvent fortes et résilientes, affrontent les épreuves avec dignité. À travers vos pages, on perçoit un réel engagement, une sensibilité particulière, en tout cas, à la condition féminine. Et je voulais savoir s'il était inévitable pour vous d'aborder le thème de la violence, justement, faites aux femmes, des violences faites aux femmes, dans vos romans.
Oui, bah, du coup, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Et ce que j'ai pu constater quand j'ai discuté avec des hommes sur cette thématique-là, c'est que c'est quelque chose qui est très, très présent dans la vie de certains hommes. Notamment, j'ai rencontré des hommes qui avaient été victimes de violences dans leur enfance, soit directement, soit qui ont vécu dans des foyers violents. Et il y a une question fondamentale, même pour les hommes, qui est la question de la reproduction de cette violence, reproduction intergénérationnelle. Et donc, ces hommes m'ont dit, et c'était assez récurrent, quand j'ai commencé à avoir des relations amoureuses, tout de suite je me suis dit, mais est-ce que moi aussi je vais être violent ? Et c'est quelque chose qui peut polluer une vie entière en réalité. Et je pense qu'il y a toute une dimension d'éducation qui aujourd'hui, à mon sens, n'est pas prise à bras le corps dans notre société, et notamment d'éducation des garçons. Et donc le sens de la lettre qui émaille le roman, c'est aussi la lettre d'un père qui s'adresse à son petit garçon.
J'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait de cette lettre. Justement.
Alors allons-y. Je te souhaite d'être un homme qui ne mesure pas sa force en domination, mais en respect. Qui n'impose rien, mais écoute tout. Qui ne confond pas puissance et emprise, courage et brutalité, amour et possession. Qui s'autorise à être sensible, à avoir peur, à pleurer sans honte. Qui refuse les gestes déplacés, les mots insidieux, les rires complices face aux blagues ou aux commentaires sexistes. Je te souhaite d'être un homme qui marche aux côtés des femmes, jamais devant elles, qui les laisse parler sans les couper, car personne ne sait mieux qu'elles ce qu'elles vivent, qui les écoute, les entend, les croit, qui sait qu'un non se suffit à lui-même et qu'un oui n'a de valeur que s'il est libre et sincère.
Merci Julien Sandrel. Vous avez l'impression qu'en tant qu'homme, on ne vous a pas assez dit tout ça ?
Ah bah complètement. Moi je suis un enfant des années 80, 90 et donc j'ai grandi dans un monde pour lequel le consentement n'existait pas. Quand on voit tous les extraits d'émissions télévisées qui ressortent des années 90, on est quand même horrifié. Heureusement, la société a évolué parce que justement, aujourd'hui, avec le regard qu'on a, on est horrifié de ce qu'on voit. Et c'est vrai que j'ai grandi aussi avec des modèles d'hommes testostéronés, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, etc. Et je pense qu'il est temps quand même de donner à nos enfants, et notamment à nos garçons, moi j'ai deux enfants, j'ai une fille de 13 ans et un garçon de 17 ans, une autre image de la masculinité, de leur montrer qu'on peut être un homme différemment et qu'il n'y a pas un seul modèle de masculinité.
Et pour vous, la littérature, elle vous sert à quoi ? À faire passer des messages, à comprendre des choses que vous n'aviez pas encore intégrées ? Comment vous appréhendez vos romans ?
Les deux, en fait.
Élodie disait tout à l'heure que vous écrivez vraiment pour vos lecteurs. et vos lectrices.
Alors j'écris, alors, c'est pas tout à fait vrai, j'écris avant tout pour moi, parce que j'écris sur des thématiques qui m'intéressent et qui m'interpellent, et c'est le point de départ de mes romans, c'est souvent une thématique que j'ai envie de traiter, donc là en l'occurrence les violences faites aux femmes, mais on parlait des étincelles tout à l'heure, c'est un roman qui parle de lanceurs d'alerte dans le domaine de l'environnement, donc c'est vraiment ça mon envie de départ.
Vous avez besoin d'apprendre aussi sur...
Oui, d'apprendre, il y a ce moteur de l'apprentissage, et je me dis que si moi j'apprends des choses, probablement si j'arrive à les retranscrire, les lecteurs vont apprendre aussi certaines choses sur ces sujets-là. Donc il y a ce moteur de transmission qui est très fort, et je pense aussi que moi j'exorcise d'une certaine façon mes peurs et mes angoisses à travers l'écriture. C'est une sorte de psychanalyse géante finalement l'écriture, et qui est finalement moins chère qu'une psychanalyse chez un psychiatre. Et donc ouais, mais en fait moi je mets toutes mes angoisses et j'essaye de les exorciser en essayant aussi d'envisager des chemins lumineux pour en sortir.
Je pense que c'est un peu votre point commun à tous les trois. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, Philibert Hume, Laurent Godet et Julien Sandrel. C'est la fin de cette émission. Avant de se quitter, je recommande vos romans. Il y en a pour tous les goûts. Philibert Hume, roman policier, c'est aux éditions des Équateurs. Et vous ne lirez rien de plus drôle cette année. C'est burlesque, nostalgique, avec beaucoup de poésie, comme souvent, derrière l'humour réussi. Et vous y apprendrez que le mot tumultueux est celui qui compte le plus de U de la langue française, qui est absolument indispensable. On conseille aussi votre livre, Laurent Godet, Zem, chez Actes Sud, un roman noir à un tour de force, surtout réussir à mêler la tension du polar à la gravité de la tragédie antique. C'est passionnant et ça parle d'aujourd'hui. Et enfin, lisez Julien Sandrel avec Le jour où Rose a disparu chez HarperCollins, un roman engagé, roman qu'on ne lâche pas. Surtout quand on l'a démarré, croyez-moi. Merci également à notre libraire du jour, Élodie Martin, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Allôme à la réalisation, Benjamin Thuot, Alexandre Martin, Mathieu Leroy, Benoît Guéjot à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Merci enfin au merveilleux public du théâtre de Brive. Je vous rappelle qu'Olivre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires.